RCF.
Bonjour à tous et bienvenue sur RCF dans Effervescence. Effervescence, vous le savez, mais je le répète, c'est le magazine de l'étonnement culturel. Et aujourd'hui, nous vous accueillons avec une formation réduite. Seuls deux chroniqueurs dans cette émission. Les deux autres sont partis à la pêche ou aux champignons, je ne sais plus. Et ils seront de retour le mois prochain. Un épisode d'Effervescence qui sera l'occasion cette semaine de tester une nouveauté. Et si dans votre magazine de l'étonnement culturel, on entendait aussi les artistes qui font l'actualité? Eh bien, c'est chose faite. Et en fin d'émission, le documentariste Nicolas Philibert nous parlera de son dernier film Sur l'Adamant, une plongée dans un accueil de jour parisien qui accueille des personnes atteintes de troubles psychiques. Un très beau portrait de ce lieu magnifique, mais surtout de ces personnes dont la folie, un peu plus qu'ordinaire, nous touche droit au cœur. Mais avant cela, place aux chroniqueurs, tous les deux hommes de presse et tous les deux grands amateurs de peinture. Et ça tombe bien, puisqu'avec eux, on va parler des 50 ans de la disparition de Picasso. Guillaume Goubert et Laurent Gelsheimer, bonjour tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Laurent Gelsheimer, vous avez pris la clé des champs et vous êtes avec nous depuis le Sud-Ouest. Vous êtes le fondateur de l'hebdomadaire Le 1. Le 1 qui sort un hors-série consacré aux 7 paradoxes de Picasso. Avec vous, on ira au cinéma voir Les âmes sœurs, le dernier Téchiné, une bien étrange histoire d'amnésie. Et puis on lira Le nageur, dernier roman de Pierre Assouline, qui revient sur le destin hors du commun du champion de natation Alfred Nakache. Guillaume Goubert, vous êtes l'ancien directeur de La Croix et chroniqueur Beaux-Arts chaque mardi matin sur RCF. Vous, comme des milliers, je ne sais pas si on peut dire des millions de Français, vous êtes allé applaudir les Trois Mousquetaires au cinéma. Vous nous raconterez. Et puis grâce à vous, on écoutera du blues et du bon avec le dernier album d'Éric Bibb. Voilà, deux chroniqueurs dans cette émission. Chacun est prêt, on peut commencer à Effervescence. Saurez-vous découvrir qui se cache derrière la voix qui va suivre?
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Si l'on veut comparer les écoles d'artistes à des chaînes de montagne avec des sommets plus ou moins hauts, eh bien Picasso ne fait partie d'aucune chaîne. Il est une espèce de volcan qui est sorti tout seul, isolé. Il y a tous les autres et puis il y a Picasso. Voilà. Alors, comme les volcans d'ailleurs, il est en activité. En activité bouillonnante en permanence. C'est presque plus qu'un peintre, c'est un perpétuel créateur. Tout ce qu'il touche est différent après qu'avant. Un crâne de chèvre, un visage de femme, je ne parle pas de l'Arlequin, nous n'en voyons rarement, mais une table, une chaise. Tout est modifié par lui, c'est le vrai créateur, le vrai transformateur. Une perpétuelle vitalité, une perpétuelle mobilité, un perpétuel renouvellement. C'est une sorte de monstre sacré de l'art.
Voilà, 21 octobre 1971, à l'occasion des 90 ans de Pablo Picasso, une exposition lui était consacrée au musée du Louvre. Et c'était une première exposition qui sera inaugurée, vous l'avez peut-être reconnu, par le président Georges Pompidou. Alors Guillaume Goubert, monstre sacré à Pablo Picasso?
Disons que si on accepte l'usage de cette expression-là, que personnellement je n'aime pas beaucoup, oui, certainement. Et je veux dire, dans le domaine de la peinture au XXe siècle, c'est certainement un personnage presque mythologique. On peut aussi retenir le mot monstre au sens strict, on va en parler. Donc sacré, non, il n'est pas sacré, on le voit bien en ce moment. Et c'est ça qui est bien et qui est intéressant. Mais un très très grand artiste, oui.
Alors à l'occasion de cette exposition, en 1971, c'était 3 ans avant la mort de Picasso, le Louvre va être ouvert gratuitement pendant 10 jours au public. Aujourd'hui, il n'y a pas un mois sans que s'ouvre une nouvelle exposition consacrée à Picasso. Et on a du mal à imaginer, Laurent Gelsheimer, qu'il ait pu être un artiste rare, dont les œuvres étaient peu visibles pour le grand public.
Ah oui, c'est l'un des grands paradoxes Picasso, mais comme souvent d'une certaine manière, c'est que on ne le sait pas ou on l'a oublié, mais Picasso fait partie de ces artistes qui tout au long de son existence a été quasiment inconnu du grand public. Hein, de très jeune, à partir de l'âge de 20 ans jusqu'à la fin, il est admiré, il est acheté par des collectionneurs, par certains musées étrangers, et donc il a un immense succès et il amasse une immense fortune, mais le grand public l'ignore. En France, pour vous donner un repère, la première exposition, la première grande exposition qui lui est consacrée, c'est en 1960. Excusez du peu, Picasso a déjà 80 ans, autour de 80 ans. Donc ça montre bien à quel point il était inconnu. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a une saturation Picasso. On va peut-être parler du côté, entre guillemets, monstrueux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les musées savent que lorsqu'ils organisent une exposition Picasso, il y aura le public au rendez-vous, et une ville comme Paris et les grandes capitales de France, tour à tour, montent des expos, parce que c'est aussi une machine dont on sait qu'elle attire les touristes.
Guillaume Goubert, vous voulez apporter une petite nuance ?
Oui, une petite nuance. Je souscris tout à fait à ce qu'a dit Laurent sur la connaissance de l'œuvre de Picasso. Mais la connaissance de Picasso comme personnage de peintre qui bouscule, je pense que c'est plus ancien que ça. J'ai une preuve de ça. Il y avait autrefois la SNCF, un modèle d'autorail qui avait une forme un peu biscornue avec une petite cabine de conduite sur le toit. Eh ben, c'était les cheminots l'avaient surnommé Picasso. C'était l'autorail Picasso, la Micheline, on disait à l'époque Picasso. Donc c'est pour dire qu'on savait que Picasso était un peintre qui bousculait les codes, qui faisait des choses un peu étranges de face, de profil, enfin tout ça. Mais c'est vrai que son œuvre de peintre était peu connue. On connaissait plus le personnage que l'œuvre.
Laurent.
Guillaume, c'est toute la distinction. Effectivement, c'était un personnage public et un peu plus. C'était une célébrité mondiale. Avant la lettre, hein, c'était Michael Jackson plus Madonna plus quelques autres plus Elton John dans le domaine de la musique. Mais, c'est-à-dire qu'il faisait régulièrement la une de Paris Match. Guillaume cite cet exemple de la locomotive baptisée Picasso. C'était aussi presque devenu une injure, hein, quand deux automobilistes se faisaient une mauvaise manière, on pouvait se crier espèce de Picasso. Ça s'entendait dans les rues de Paris. Donc c'était une immense personnalité. Lui-même disait, il y a trois personnes au monde qui sont de notre niveau. Il y a moi, bien sûr, il y a Charlie Chaplin et Jean Cocteau. C'est dire, il avait tout à fait conscience de ça. Mais pourquoi ? Parce qu'il s'était fabriqué une image. Guillaume parlait tout à l'heure de mythologie ou de personnages de la mythologie, mais c'est tout à fait ça. Il s'était fabriqué un personnage. Il acceptait tout des photographes. Il a posé pour d'innombrables photographes, même pour un cinéaste comme Clouseau qui a fait ce film documentaire exceptionnel, Le Mystère Picasso. Mais il accordait très peu d'entretien, et surtout sa peinture restait quand même, j'allais dire, presque une inconnue. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à rentrer dans cette peinture qui, selon les périodes, exige eh bien une certaine connaissance, un certain effort.
On y reviendra, Guillaume Goubert.
Pour compléter le portrait que nous sommes en train de faire, on ajoutera qu'à l'époque, Pablo Picasso était membre du Parti communiste. Et c'était une grande gloire pour le Parti communiste de compter parmi les siens ce peintre-là. Et le Parti communiste a fait aussi beaucoup pour pousser l'image de Picasso. Mais il y a eu un moment délicat, c'était à la mort de Staline, où il a fait, pour la couverture de l'hebdomadaire culturel du PCF qui s'appelait Lettres françaises, il avait fait un dessin qui représentait Staline jeune avec un physique très 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 un peu rustique, une grosse moustache, etc. Et les militants avaient été tout à fait scandalisés. Et Aragon, qui dirigeait les Lettres françaises à l'époque, avait dû pratiquement s'excuser platement devant son public.
Laurent Grelzheimer, vous évoquiez les relations de Picasso avec les photographes. J'aimerais que vous nous parliez de la photo qui fait la une du hors-série Le 1 consacré à Picasso. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette photo ? Elle est vraiment extraordinaire.
Oui, alors elle frappe par deux choses. L'intensité du regard, ça c'est une évidence, mais aussi par la tension qu'il y a entre la sérénité, le côté statuaire de cette photo. On voit Picasso en buste, on voit son torse, on voit devant sa main qui tient une sorte de torche, et puis il y a la fixité du visage et du regard en arrière-plan. Donc il y a tout à la fois le côté statuaire et le côté mobilité en mouvement, parce que le peintre Zhong Mili C'est un peintre d'origine albanaise, mais qui a vécu pour l'essentiel aux États-Unis et qui est devenu ressortissant américain. Xiong Mili était une sorte de précurseur et de photographe qui avait des bases scientifiques très solides. Il avait notamment inauguré les premiers flashs électroniques et très puissants. Et là, il a eu cette idée géniale pour faire la couverture de Life. C'était le grand magazine américain, c'était en 1949. Il est allé voir Picasso dans le sud, à Valoris, et il lui a demandé de poser en tenant à la main ce qu'on appelle un crayon de lumière. Ça ressemble un petit peu à une petite torche ou à une sorte de mini chalumeau. Et on voit Picasso tenir délicatement ce crayon de lumière, et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il l'a agité, et la photo, elle, a imprimé le geste de Picasso, c'est-à-dire que ce crayon de lumière laisse des traces, ce qui donne à la photo, mais enfin j'invite nos auditeurs à se reporter sur Internet à la photo.
Ils peuvent même acheter le 1, il est supplément.
Ou acheter le 1, c'est encore mieux. C'est une photo qu'on voit très rarement et qui est saisissante. Et alors, en plus, notre jeune directrice artistique, Amandine Poirot, a choisi de dédoubler la photo, c'est-à-dire qu'on la voit deux fois sur notre une fois en plan serré et une fois en plan plus large.
Voilà, de très bel effet. Je voudrais qu'on rentre dans le dur du sujet. On est en 2023, ça fait donc 50 ans que Pablo Picasso est mort. Est-ce que le regard sur l'œuvre, sur le personnage Picasso a changé? On parlait de monstruosité, Guillaume Goubert.
Le regard sur... Alors la question, c'est toujours l'homme et l'œuvre. Sur l'homme, le regard a certainement changé et certaines estiment que ça doit changer le regard sur l'œuvre. D'autres récusent cette idée.
On peut résumer
plus ou moins
ce qu'on reproche à Pablo Picasso.
Ce qu'on lui reproche, on l'avait surnommé Barbe Bleue, il a eu beaucoup de femmes dans sa vie et plusieurs de ces femmes ont beaucoup souffert. Et donc on lui reproche un comportement de macho. T'es un Andalou, de macho, et je crois que c'est difficilement contestable. La question, alors. Je pense qu'il y a en même temps je pense que ça doit être regardé, ça doit être pris en compte. Le fait de dénommer certaines périodes picturales de l'artiste du nom de ses épouses est certainement une chose à laquelle il faut renoncer, parce que ça revient à instrumentaliser ces personnes. Et je pense pas que ça ait une telle importance par rapport à la démarche picturale de Picasso que d'avoir peint telle ou telle personne. Bien sûr, c'est arrivé, mais je ne pense pas que c'était systématique. Voilà, donc je pense qu'il faut prendre ça en compte, se dire qu'effectivement, il est mort il y a 50 ans, il était très vieux, donc les faits qui lui sont reprochés remontent vraiment à une autre époque où beaucoup de reproches pouvaient être faits à beaucoup de personnes. Ça peut paraître hors sujet, mais il y a un poète de la même époque, de la même génération, qui est Paul Éluard, qui est étudié dans toutes les écoles. Il y a beaucoup de poèmes de Paul Éluard qui nous touchent beaucoup. Du fait de son engagement personnel au Parti communiste, Paul Éluard a dit des choses monstrueuses au moment des procès staliniens. Il a dit « J'ai trop à faire pour défendre les innocents qui défendent leur innocence pour m'occuper des coupables qui clament leur culpabilité. » Parce qu'à l'époque, ceux qui étaient accusés dans ces procès avouaient tous qu'ils avaient été coupables, généralement après torture, ou en espérant qu'ils éviteraient la mort. Voilà, donc quelqu'un qui dit une phrase comme ça, c'est pas terrible non plus, quoi. Et je dirais, mais voilà, c'est hélas une époque où ça se passait comme ça. Est-ce que ça doit nous amener à rejeter l'œuvre de Picasso? Non, je ne le pense pas.
Laurent Grésamur, je sais que ça vous agace de relire les œuvres sous le prisme de ce féminisme 2023.
Oui, Stéphanie, vous me connaissez bien. Ça m'agace, mais je le comprends, parce que dans ce que vient de dire Guillaume, je souscris complètement. Moi, j'apporterais peut-être deux ou trois nuances, parce qu'en réalité, actuellement, la polémique est nourrie par des cercles féministes qui sont un petit peu soit très myopes, soit même peut-être aveugles. En réalité, comme l'a dit Guillaume, quand on parle de Picasso, il faut recontextualiser. On a affaire à un homme qui est né en 1885 ou des poussières en Espagne. C'est donc quelqu'un, je dis 85, je me trompe, c'est un peu plus tôt. Mais enfin, peu importe, c'est quelqu'un qui a passé ses 20 premières années dans l'Espagne du 19e siècle. Donc nous parlons, nous sommes en 2023 et nous considérons avec tous nos acquis, toutes nos mœurs, nos mentalités, on commence à juger Picasso. Alors évidemment, c'est bien de s'en prendre à Picasso, puisque comme c'est entre guillemets le plus grand, on sait qu'on peut y aller franco, sans jeu de mots stupide. Mais non, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est ce que j'explique, c'est ce que j'essaye d'expliquer quand on me raconte que c'est un monstre. J'ai envie de dire deux choses différentes. Bon, d'abord, les grands artistes sont souvent assez monstrueux. Pourquoi ? Bien parce qu'ils construisent une œuvre. Ils ne la construisent pas dans la facilité, ils la construisent difficilement, avec une exigence terrible. Et on sait que globalement, ils sont assez odieux avec leur entourage, que les enfants n'ont pas le droit de parler, qu'il faut faire silence, etc. C'est bien connu, il y en a d'illustres exemples comme Victor Hugo et d'autres. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, quand on essaye d'instruire le procès de quelqu'un comme Picasso, bah, je veux dire, d'une certaine manière, il faut apporter des preuves. Hein. C'est la logique du contradictoire dans l'univers judiciaire. J'ai tendance à dire aux personnes qui accusent aujourd'hui Picasso d'être un tortionnaire, d'avoir poussé au suicide telle ou telle femme ou de l'avoir frappé, j'ai envie de leur dire « apportez les preuves ». Moi, je n'ai pas de preuves. En revanche, j'ai lu attentivement les témoignages et les livres, et ça, ce sont des témoignages incontestables, de deux des femmes de la vie, et pas n'importe lesquelles, de deux femmes importantes dans la vie de Picasso. J'allais dire la première, Fernande Olivier, qui a écrit, qui a laissé, disons, pour faire simple, deux livres de souvenirs. Et ces livres de Fernande Olivier, jamais il n'est question de rudesse, d'impolitesse, d'irrespect, bien au contraire, c'est un long témoignage d'amour et d'affection, et ce sont des livres qui ont été publiés 20, 30 ans après leur séparation. Ça, c'est la première chose. Et j'invite tous les auditeurs, auditrices à lire le formidable livre de Françoise Gillot, 50 ans après. Cette jeune femme de 18 ans va vivre pendant 10 ans avec Picasso à la fin des années 40, au début des années 50. Et Françoise Gillot a écrit, après leur séparation au bout de 10 ans, et deux enfants nés de cette union, elle écrit « Vivre avec Picasso ». Et c'est un livre non seulement sublime sur la peinture, sur la vie avec Picasso, mais si elle montre à quel point effectivement Picasso peut être monstrueux, c'est également, j'allais dire, presque un hommage à Picasso et parfois à sa tendresse, à son affection, à sa sensibilité. Et la rencontre entre Françoise Gillot et Picasso est magnifiquement racontée par Françoise Gillot. Et à ceux qui pensent que Picasso est un ogre, un centaure, un homme cheval qui dévore ses proies, eh bien il faut voir cette liaison, cette union naître. Durant des mois, ils se fréquentent, ils se parlent, ils ne se touchent pas. Puis il y a un vrai premier tête-à-tête. Puis. Et tout ça est extraordinairement délicat et beaucoup plus nuancé que ce qu'on dit généralement.
Alors Laurent Grézameur, puisqu'on en est à la bibliographie, c'est le moment de préciser que vous avez écrit Le Monde selon Picasso il y a quelques années et c'était publié chez Talendier. Moi je me demande si on n'a pas beaucoup parlé de Picasso, si on n'a pas tout dit et qu'il serait peut-être temps de revenir aux œuvres, à l'œuvre de Picasso. Comment est-ce qu'on regarde un Picasso, Guillaume Goubert ? Comme n'importe quel tableau ?
Alors, pour moi, ce n'est pas facile de répondre à cette question parce que s'agissant de ce peintre, je suis en quelque sorte un pratiquant non-croyant. C'est-à-dire que je pratique beaucoup, je ne peux pas dire que ce soit un peintre qui me touche énormément. Je veux dire, dans la même génération, Je préfère Henri Matisse, par exemple. Mais je le pratique parce que chaque fois que j'ai l'occasion d'en voir dans des musées, et comme il a eu une œuvre immense, il y a beaucoup d'œuvres de lui que l'on peut voir, je suis toujours impressionné par, quelles que soient les périodes, parce que son œuvre a des séquences très différentes les unes des autres, je suis toujours très impressionné par, par sa créativité, par sa maestria, ses couleurs, y compris... Il y a quelque temps, on a redécouvert le dernier Monet, mais il y a aussi le dernier Picasso, qui d'ailleurs avait été à l'époque aussi mal considéré que l'avait été le dernier Picasso, celui d'Inafer. Auparavant, on a tendance à dire « Oh là là, le pauvre, il était devenu gâteux », etc. Il y a eu une grande exposition, je crois, au Palais des Papes à Avignon, et qui avait été très critiquée. Et ben non, ce peintre de 90 ans faisait encore des choses incroyables. Cette manière de s'emparer du moindre objet pour l'inclure dans des sculptures. Voilà, non, c'était un homme qui était en recherche permanente dans le domaine de l'art, de l'expression, du graphisme, et donc il est vraiment très passionnant, même si personnellement il ne me touche pas beaucoup.
Laurent Grésamer, vous l'avez dit, hein, on connaît tous les images, les réalisations de Picasso, on les comprend pas forcément tous, ça reste un artiste au travail méconnu. Comment est-ce qu'on regarde un tableau de Picasso ou une sculpture de Picasso?
Alors, je dirais qu'on doit le regarder, je me permets d'être un peu péremptoire, on doit le regarder un peu comme toutes les autres œuvres. C'est-à-dire que ce qui est très difficile à comprendre aujourd'hui, où on est à l'ère du tweet, de l'instantané, de la rapidité, il faut savoir s'arrêter devant un tableau et le regarder pendant plusieurs minutes. Or, c'est vrai qu'on est tous fautifs, mais quand on voit le public dans une exposition aujourd'hui, bien les gens défilent assez rapidement devant les toiles, et c'est vrai qu'on nous en propose parfois plusieurs centaines, ce qui est complètement fou. Ben, c'est beaucoup trop. Et donc il faut soit pouvoir se dire, eh bien, on m'en propose 200, mais je vais en regarder vraiment 5. Je fais un premier tour rapide, je sélectionne celles avec lesquelles je sens quelque chose. Et puis ensuite, j'y reviens et je regarde 5-10 minutes. Parce qu'en réalité, c'est valable pour Picasso et pour tous les peintres, il faut se donner le temps de les voir. Et je dirais que, comme Guillaume, dans cette œuvre, il y a plusieurs massifs. Je dirais, au-delà de la peinture, il y a bien sûr la sculpture. C'est un très grand sculpteur, mais il y a aussi la céramique. Il y a la lithographie, qui sont des genres différents. Il y a des massifs beaucoup plus difficiles à appréhender que d'autres. Je citerai, par exemple, simplement le cubisme, qui est un territoire très austère, qui demande une ascèse, qui demande là pour le coup presque déjà les compétences d'un peintre pour comprendre cette peinture. Et du reste, le cubisme globalement n'est pas apprécié, le cubisme qu'il a inventé avec Georges Braque. Et puis il y a la période, notamment après-guerre, lorsque Picasso commence une sorte de dialogue, même s'il l'avait commencé autrefois, il commence un vrai dialogue avec Velázquez, avec Delacroix, avec Poussin et d'autres, et il prend leur thème, parfois il prend même le thème d'un tableau précisément, les femmes d'Alger pour Delacroix ou les Ménines pour Velázquez, et il en fait non pas un tableau, mais il le reprend sur plusieurs toiles, parfois des dizaines de toiles. Et ça, c'est une peinture, je pense, pour le grand public, difficile à comprendre, parce que d'abord, il faudrait connaître bien la peinture de Velázquez, bien la peinture de la Croix, etc. Mais ensuite, ces variations sont des variations très subtiles, où lui-même cite d'autres peintres, comme Matisse, par exemple. Donc ça, ce sont des massifs plus compliqués. Et les massifs, si j'ose dire, qu'ils sont aujourd'hui plus faciles, beaucoup plus faciles à regarder, bah, c'est les fameuses périodes bleues et roses. Il faut quand même rappeler au passage que ce sont des périodes qui n'étaient pas appréciées à l'époque. Picasso a eu un énorme succès dès l'âge de 20 ans, et quand il s'est mis ensuite à inventer, si j'ose dire, la période bleue, son premier public de collectionneurs l'a lâché. C'était une peinture pour l'époque trop difficile, trop sévère, trop triste. Et c'est vrai que la période bleue, bon, est une période assez pathétique. Mais la période rose aussi, qui est beaucoup plus souriante, n'était pas appréciée. Et puis, comme Guillaume l'a dit, il y a la dernière période qui est encore très méconnue. Et il se trouve que moi, j'ai eu cette chance de visiter la dernière exposition de 73. juste après sa mort, donc on y allait comme en pèlerinage à Avignon, et dans le public, était un public averti, ça a été une sorte de sidération, et ce public n'a pas aimé, les critiques n'ont pas aimé cette dernière peinture. Et c'est une peinture, beaucoup d'autoportraits, dont on s'aperçoit aujourd'hui à quel point elle est subtile, elle est fine, elle est pleine d'autoportraits,
Laurent,
pleine de sensibilité.
Laurent, je suis obligée de vous interrompre. Je voudrais vous faire écouter une archive assez rare, vous la connaissez sûrement, de Pablo Picasso à la télévision, c'est en 1966.
C'est la seule et l'unique.
Si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période?
Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? Parce que c'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivi, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça. C'est personnel, n'est-ce pas? Au fond, ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers.
Vous êtes extraordinairement jeune, Pablo Picasso. Est-ce que vous pensez quelquefois...
Vous savez mon âge. Mais peut-être que c'est un âge jeune.
Voilà, Pablo Picasso en 1966, qui ne veut pas choisir entre ces périodes. Allez, un dernier mot sur Picasso aujourd'hui, Guillaume Goubert.
Oui, allez voir l'exposition Faith Ringgold au musée Picasso à Paris. C'est une artiste noire, une militante féministe, une militante antiraciste. Et qui, alors on se demande un peu a priori
qu'est-ce
qu'elle
fait
au musée Picasso. Eh bien, on comprend pourquoi, parce que on voit que pour elle, Picasso a été une source d'inspiration très importante et qu'elle a su le dire avec à la fois de l'admiration et de l'humour, ce qui est pas si fréquent. Ça se manifeste notamment par le fait qu'elle a refait le déjeuner sur l'herbe de Manet. Vous savez que le personnage est une femme nue entourée de messieurs habillés, et là, ce sont des dames habillées avec un monsieur nu, et ce monsieur nu, c'est Pablo Picasso.
Carrément. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Pablo Picasso et vous inviter à aller regarder ses œuvres attentivement.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Et dans Effervescence, on ouvre maintenant une page cinéma.
Voici donc les diables que je dois gronder.
Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire ?
On ne se fait pas justice soi-même.
Si c'était un peu plus gras, celui-là, je l'embrocherais bien. Hein.
Un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant?
D'Artagnan, votre majesté.
Trois duels aux trois heures avec trois mousquetaires.
Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et wow. Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde.
Je vous trouve bien arrogant, jeune homme.
C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de sa majesté.
Je suis Charles d'Artagnan.
J'ai bien connu votre père. Que puis-je faire pour son fils?
Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire.
Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire.
Et Guillaume Goubert jubile dans le studio. Alors Guillaume, comme ça, on vous découvre femme de film de KPDP?
Ah, totalement. Alors, je ne sais pas exactement d'où ça vient. J'ai une explication. C'est qu'un des premiers films dont je me souviens, c'est Fanfan la Tulipe avec Gérard Philippe et Gina Lollobrigida, qui est quand même un film de 1952. Bon, j'étais pas encore né, je l'ai vu un peu plus tard. Voilà, un film de Christian Jacques. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version des Trois Mousquetaires, alors il semblerait que ce soit la 43e.
Carrément.
C'est quand même extraordinaire.
Et a priori, c'est pas la pire.
Ah non, non, non.
Non, non, mais enfin, visiblement, c'est rare qu'un film grand public...
Je n'ai pas vu le 43.
Non, rencontre aussi une critique assez positive. Et,
relativement positive.
Voilà, quand même.
Relativement, oui. Oui, bon. Oui, et je partage le jugement. Je trouve que c'est une assez bonne version, extrêmement bien jouée. Il y a vraiment une très belle distribution. On peut citer quelques noms. François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Louis Garrel, qu'on entend, qui joue le rôle de Louis XIII, qui est vraiment extrêmement drôle. Vicky Krieps dans le rôle d'Anne d'Autriche, Lina Kudry, Eric Ruff de la Comédie Française qui joue Richelieu, pardon. Voilà, non, c'est vraiment un grand plaisir. Alors bon, il y a des choses qui m'ont pas plu. Je veux dire, il y a des scènes de bataille, de duel et autres qui sont quand même un peu saoulantes à force. Mais il y en a un peu trop à mon goût. Mais le goût peut être différent. Eva Green dans le rôle de Milady, je la trouve un peu trop Cruella d'enfer. Enfin, je dirais, elle est un peu caricaturale. Et puis surtout, la photo du film baigne dans une lumière ocre. Quelqu'un dit que c'était passé au brode noir, c'est un peu excessif, mais c'est vrai que
on a voulu faire vieux.
Je sais pas. Oui, c'est un côté sépia, effectivement. Voilà.
Mais sinon, qu'est-ce qui est bien?
Mais ce qui est bien, c'est l'histoire. La bande-annonce le montre bien, quoi. Je veux dire, c'est cette histoire d'amitié entre ces hommes, aussi cette dimension amoureuse aussi avec le personnage de Constance Benassieux, voilà. Et puis il y a très très beau décor, c'est tourné principalement en décor naturel et dans de très beaux lieux, au Louvre notamment, et donc voilà, ça dure 2 heures et moi je me suis vraiment pas ennuyé une seconde, j'ai vraiment pas senti le temps passer, quoi. Mais voilà, c'est un film de genre.
C'est un film de genre.
Moi, j'aime pas les westerns, par exemple. Alors que, semble-t-il, le réalisateur Martin Bourboulon s'est inspiré de l'esprit des westerns pour faire ce film de KPDP. Les westerns m'ennuient, mais moi, dès qu'il y a des câbles, des plumes, des épées, etc., j'adore. Ça me réjouit.
Voilà, donc réjouissez-vous et allez voir donc Les Trois Mousquetaires. Enfin, c'est D'Artagnan, le titre exact. Le film de Martin Bourboulon.
Oui, il y a un deuxième épisode qui doit sortir au mois de décembre, intitulé Milady.
Vous avez déjà réservé votre place.
Ah bah oui. Mais le problème, c'est que je connais déjà l'histoire, mais parce qu'il faut le lire aussi. Hein. Je veux dire, c'est aussi un très très grand roman d'Alexandre Dumas.
Ça se lit encore aujourd'hui.
Ah oui, bien sûr. Comme Le Comte de Monte Cristo, qui est un sommet de la littérature.
Ça, c'est quand même un sommet.
Voilà. Non, c'est vraiment la lecture ou le cinéma, vraiment pour le plaisir.
On reste au cinéma, mais alors changement de style, d'époque. On va parler des Âmes Sœurs, le dernier film d'André Téchiné. C'est une histoire d'amnésie. Laurent Gretzheimer, vous avez été le voir. On va écouter la bande-annonce et puis vous nous direz ce qu'il faut retenir de ce film.
Situation toujours très chaotique au Mali, madame.
C'est votre frère David. Il y a son véhicule blindé qui a sauté sur un engin explosif. Je dois partir quelques jours à Paris.
Qu'est-ce que tu vas foutre à Paris?
Je le connais, David. C'est quelqu'un qui veut pas mourir. Il bouge. David, tu m'entends?
C'est plus le même malade depuis votre visite. Vous avez peut-être des super pouvoirs, hein?
Ça va être un sacré marathon pour le remettre sur pied.
Ah. Il montre des troubles de la mémoire.
Une amnésie, mais ça va durer longtemps. C'est notre vallée. Tu reconnais?
Je reconnais rien.
Je suis content de te voir.
Il te reconnaît pas, ça le perturbe.
Solliciter des souvenirs, vous pouvez lui parler de sa famille.
C'est des conneries, ça reviendra pas. Quand je vois ces images de l'armée, sérieux. Je préfère être ici, avec toi.
Voilà, les âmes sœurs, le retour d'André Téchiné. Vous avez aimé Laurent Gretzheimer?
Oui, alors je dirais que ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais que c'est un film prenant. C'est un film qui est bien fait et c'est le plaisir de retrouver l'univers d'André Téchiné, 80 ans tout de même. C'est un film dans lequel on retrouve un petit peu l'esprit d'un de ses premiers longs métrages dans les années 90 avec Les Roseaux Sauvages, qui est dans lequel jouait Élodie Boucher. C'est une réflexion tout à la fois, vous l'avez dit, sur l'amnésie, mais aussi, il faut le savoir, sur l'inceste. La bande-annonce est très bien faite parce qu'elle reste sur les premières 10 minutes du film. Enfin, il faut quand même le dire, c'est pas seulement la mémoire, c'est aussi l'inceste. Et puis aussi, comme souvent chez André Téchiné, qui aime bien jouer avec les sujets sociétaux, là il évoque en réalité également le travestissement, le goût du déguisement chez les hommes et les femmes, là en l'occurrence chez les hommes, dans ce film. Alors c'est un film, si vous voulez, moi je l'ai apprécié pour deux raisons. D'abord la thématique dont on a parlé, mais aussi parce que c'est une sorte de quasi huis clos entre deux personnages, le frère et la sœur, David Faber et Jeanne Faber. C'est joué par les acteurs Benjamin Voisin, très 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 bon acteur, Noémie Merlant qui est parfaite. Et puis il y a cette manière de filmer, je trouve, qui est très agréable chez André Téchiné. Et donc on est dans un esprit de cinéma, si j'ose dire, intelligent.
Du cinéma intelligent et sensible, c'est Les Âmes Sœurs de Téchiné par Laurent Gretzheimer.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Et c'est toujours Effervescence sur RCF. Merci de votre fidélité. Nous sommes avec Guillaume Goubert et Laurent Gretzheimer. Laurent, c'est une histoire passionnante que vous nous proposez de lire maintenant. L'histoire d'un nageur qui traversa l'histoire. Et on découvre avec son histoire que ça peut être très long, le temps qui sépare deux Olympiades.
Oui, comme vous le dites, Alors c'est un livre tout à la fois tragique, brillant et formidable de Pierre Assouline. Alors moi je ne connais rien en sport et je ne peux pas dire que je sois ni sportif ni grand amateur de sport. Et je ne connaissais même pas le nom d'Alfred Nakache. Mais je me suis renseigné et j'ai appris que pas mal de piscines en France, y compris des bassins prestigieux, s'appellent Alfred Nakache. Parce que c'est un des grands noms de la natation française des années 1930 à 1950. Et effectivement, vous le dites, avec ce nageur, puisque c'est le titre du livre, Pierre Assouline nous fait vraiment traverser une grande partie du XXe siècle, un XXe siècle assez tragique, puisque ce fils de Constantine devient un grand nageur dans les années 30, et notamment aux Olympiades de Berlin avant-guerre. Il est l'un de ceux qui représente la France, et j'allais dire presque pour son malheur et son bonheur. Il va pas accéder au podium, mais il va quand même battre l'équipe d'Allemagne, notamment aux 4x100 mètres. Et puis, on le retrouvera aux Olympiades en 48 à Londres. Alors, entre-temps, il y a la guerre, il y a l'occupation, il y a les années noires dont on sait que enfin, les lecteurs de Pierre Assouline savent qu'il est un grand connaisseur, parce que d'abord, il a beaucoup écrit sur cette période. Et là, il raconte l'arrestation d'Alfred Nakache, juif, à Toulouse, avec sa femme et sa petite-fille Annie, qui a 2 ans. Il raconte toute leur trajectoire tragique jusqu'à Auschwitz, comment Nakache arrive à... Il arrive en janvier 44 et il va rester un an à Auschwitz et il va réussir à survivre, ne sachant pas ce que sont devenus sa femme et sa petite-fille. Enfin bref, on a tout cet itinéraire très bien raconté. C'est souvent très difficile de parler de cette période. On sait que beaucoup contestent quand cette période est portée sur grand écran. Ce n'est pas le cas à l'écrit, mais je dois dire que Pierre Assouline réussit parfaitement la description de cet univers avec la sensibilité, ce qu'il faut dire, et on apprend beaucoup de choses.
Le nageur de Pierre Assouline est publié dans la collection La Blanche chez Gallimard. On va terminer avec Guillaume Goubert en musique. Vous nous faites découvrir un bluesman, Eric Bibb. Alors qui est-il ? Il se revient sur la scène avec un nouvel album, si j'ai bien compris.
Oui, nouvel album et puis quelques concerts en France, dont un dimanche à la Philharmonie. C'est en lien avec l'exposition consacrée au peintre Jean-Michel Basquiat par la Philharmonie, où il va jouer avec des musiciens sahéliens et faire renouer en quelque sorte le blues avec son lieu d'origine qui est du côté du Mali. Voilà, Eric Bibb est un homme pas très connu sur la scène du blues. Alors il faut dire, il n'a pas du tout la tronche de Muddy Waters ou de B.B. King. C'est un homme très svelte qui porte un petit chapeau rond et qui a une voix qui n'est pas du tout tonitruante mais qui est extrêmement mélodique et précise. C'est pas un jeune homme, il a 71 ans. Il est né dedans, il faut le dire. Son père était chanteur folk. Son oncle était un des plus grands pianistes de l'histoire du jazz, John Lewis. Et dans sa maison, il a connu Pete Seeger, Paul Robeson, Bob Dylan. Voilà. Il a vécu en famille.
Les bonnes fées se sont penchées
oui,
sur son berceau.
Mais il en a fait quelque chose et quelque chose de beau. Alors, ce qui est original, c'est qu'il est né à New York, mais quand on écoute sa musique, ça fait beaucoup penser au sud, à la Louisiane, au Bayou. C'est un musicien acoustique. C'est du blues à la guitare acoustique. Il n'y a pas de... Enfin, il a des musiciens électriques quelquefois, mais lui, il joue toujours de la guitare acoustique. Voilà, et il y a à la fois du folk, de la country, du gospel, de la soul. C'est quelqu'un de très, très agréable à écouter, dont les textes sont souvent tout à fait intéressants, notamment sur la question de la lutte des Noirs pour faire reconnaître leur dignité au sein de la société américaine encore aujourd'hui.
On écoute un morceau ? Qu'est-ce qu'on écoute ?
People You Love. C'est une très très belle chanson, je le dis avant qu'on l'écoute, où il dit que les personnes qui meurent continuent à nous accompagner. Et il y a une très jolie phrase que j'aime beaucoup qui dit que ces personnes qui sont mortes rapprochent chaque jour le paradis de vous et vous mettent plus proche du paradis.
People you love pass on, but they're not gone. The ones who love you stay by your side. They watch, they pray, they show you the way. Every day they bring heaven closer. closer to you. People we love go back home. Still we're not alone. Somehow they're with us. For love never dies. They watch, they pray, they show you the way. Every day they bring heaven closer to me and you.
People You Love, extrait du nouvel album d'Eric Pibe, Riding, et c'était le choix de Guillaume Goubert.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Petite nouveauté dans cette émission Effervescence, je vous propose maintenant de rencontrer un artiste qui fait l'actualité culturelle. Nicolas Philibert est documentariste, il a filmé Le Louvre, la Maison de la Radio, mais aussi Nénette, la star des orang-outans du zoo de Vincennes. Mais ce qui l'a rendu mondialement célèbre, c'est un instituteur de village et sa classe unique avec ce film Être et Avoir. Aujourd'hui, Nicolas Philibert revient sur le devant de la scène avec Sur l'Adamant, un film sur un lieu de soins bienveillant à Paris où l'on accueille ceux qui sont habités par des souffrances psychiques. Un grain de folie bienvenue dans ce monde angoissé. L'après-midi était déjà bien avancé quand Nicolas Philibert m'a reçu dans son appartement parisien. Il avait enchaîné les interviews toute la journée, se préparait à partir pour deux avant-premières, mais a répondu avec beaucoup de générosité à mes questions. On a parlé de son travail, de la psychiatrie et de son film sur l'Adamant, bien sûr, un film qui s'ouvre par une reprise de Téléphone. Bonjour Nicolas Philibert.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. Votre dernier film, Sur l'Adamante, nous emmène sur un très beau bâtiment amarré, quai de la Râpée à Paris. Ce n'est pas vraiment une péniche comme les autres. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle a de singulier ?
Ce n'est pas une péniche, c'est vrai, c'est un bâtiment flottant. C'est-à-dire que ça ne navigue pas. Ça ressemble un peu à une péniche, c'est tout en bois, c'est très beau. Et c'est un lieu qui accueille des personnes qui sont atteintes de troubles psychiques en provenance des quatre premiers arrondissements de Paris.
Avant de parler de ces patients et de vous et de leur histoire avec vous, est-ce que vous pouvez nous parler du décor, du cadre, de l'architecture ? Parce que c'est un très beau bâtiment. C'est pas un bâtiment comme les autres. Il y a des volets en bois qui sont très impressionnants, qui font des jeux de lumière dans le film. C'est du pain béni pour un réalisateur.
C'est vrai que c'est un endroit très, très beau, très cinégénique. Il y a la proximité de l'eau. Et l'eau, elle change de couleur quelquefois d'une minute à l'autre en fonction des nuages, en fonction de la lumière. Des grandes baies vitrées, beaucoup de bois. Le bois, c'est un matériau qui est chaleureux. Une circulation très libre sur l'adamant. Donc, il n'y a pas de pièces fermées, par exemple. Les patients peuvent circuler comme ils l'entendent un peu partout. Il y a une bibliothèque magnifique. Voilà, il y a plusieurs coins, plusieurs recoins, et un bar, des tables, des chaises. Voilà, c'est un lieu d'accueil qui, déjà en tant que tel, a un côté, c'est les patients qui le disent, a un côté très apaisant, très reposant, soignant déjà. Le lieu soigne déjà. On est tous comme ça quand on est dans un bel endroit, un beau lieu, on va mieux déjà, hein, c'est vrai.
Vous vous rappelez la première fois où vous êtes allé sur l'Adamante ?
Oui, je suis allé pour la première fois dans cet endroit il y a 7 ans, 8 ans peut-être, à l'invitation d'un atelier qui s'appelle Rhizome, atelier de parole hebdomadaire, qui accueille de temps à autre toutes sortes de gens, ça peut être des artistes, des musiciens, des écrivains, que sais-je. Et j'y avais été invité pour parler de mon travail. C'était un bel échange. J'en étais reparti revigoré, me disant « Tiens, avec déjà l'envie de revenir faire un film en psychiatrie. » J'ai fait un film en psychiatrie il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans, la moindre des choses, à la clinique de la Borde. Et d'y revenir comme ça a été un peu un déclic pour refaire un film en psychiatrie.
Vous vous rappelez de l'impression que vous avez eue quand vous êtes rentré sur l'Adamante ?
J'ai eu l'impression d'être dans un endroit où on se respecte, on n'est pas trop dans l'invective. Vous savez, aujourd'hui, je trouve que le monde est dur. La vie comme ça, dans une grande ville comme Paris, c'est stressant, c'est dur. Il y a une violence contenue. Les gens ne se parlent pas, se regardent de travers dans le métro. Enfin, c'est pas simple. Les gens ne s'écoutent pas beaucoup non plus, donnent l'impression de pas beaucoup s'écouter. Et un lieu comme l'Adamant, c'est un lieu où je trouve qu'on essaye de s'écouter les uns les autres. C'est pas mal déjà.
J'aimerais que vous nous parliez de votre travail. Alors, depuis Être et Avoir, vous êtes un cinéaste mondialement connu. Mais comment vous faites pour vous faire accepter, pour faire accepter votre caméra ? Est-ce qu'il faut se faire oublier ou surtout pas ? Et est-ce que ce travail est particulier avec l'Adamante par rapport à vos précédents films ?
Moi, je ne fais pas de différence quand je suis ici ou là. Toutes les personnes que j'approche ou je filme, je les considère de la même manière. Enfin, chaque personne est différente et chaque personne, je la considère comme elle est. Mais il s'agit d'être soi-même, au fond. Il s'agit d'expliquer ce qu'on fait, de commencer par dire que chacun peut accepter ou refuser la caméra. On peut l'accepter un jour, la refuser le lendemain. Enfin, c'est très important de dire ça. Si les gens sentent qu'il y a une pression qui s'exerce, qu'ils sont un peu pris en otage, que le film constitue une pression, une contrainte, quelque chose d'encombrant, de pesant, c'est foutu, quoi. Donc il faut non pas chercher... Alors, il ne faut pas chercher à se faire oublier, surtout pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut être exubérant et prendre trop de place. Il faut être discret, mais il faut être là. Il s'agit d'être présent à ce qui se passe et surtout pas de commencer à dire « ne regardez pas la caméra, ne vous occupez pas de nous ». C'est absurde. On vient pour rencontrer des gens. Le film raconte une rencontre. Ce film consiste à prendre des spectateurs par la main, si j'ose dire, un peu métaphoriquement, en disant « allons voir ce qui se passe dans cet endroit ». Et donc, mes films, au fond, s'appuient sur la rencontre. Je vais à la rencontre d'un lieu et de ce qui s'y passe pour essayer d'en témoigner, pour essayer de recueillir que les gens veulent bien me dire, me raconter.
Alors justement, je voudrais que vous nous parliez, parce que ce film est très marquant par le regard des personnes que vous filmez. Ils passent de longs moments à regarder, à fixer la caméra. Et je voudrais savoir, vous, à ce moment-là, vous êtes où ? Vous êtes à quelle distance ? Est-ce que vous leur donnez des indications ? Est-ce qu'ils vous regardent ? Est-ce qu'ils me regardent, moi, en fait ? Qu'est-ce qu'ils regardent ?
Ben, je pense que bien des gens, quand ils regardent la caméra, c'est une façon, je ne sais pas s'il ou elle pense à ça, mais c'est une façon de nous regarder, oui, de nous dire quelque chose, de communiquer. Ça existe, la communication non-verbale, le regard avec les yeux, on dit beaucoup de choses. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup filmer des moments un peu suspendus, filmer des regards, des expressions, le regard qui est présent, qui dans l'instant d'après se fait fuyant ou se fait différent, mais ces moments-là de silence, de suspension du temps sont pour moi des moments importants, aussi importants peut-être que les moments où on parle.
Il y a un moment où il y a un jeune homme, peut-être pas si jeune, mais qui vous dit, enfin qui dit à la caméra, c'est compliqué parfois la conversation. Est-ce que la conversation a été compliquée avec eux ?
La conversation peut être parfois compliquée, parfois non. J'en fais pas une généralité. Vous savez, les gens que j'ai rencontrés sur l'Adamant, ils sont par moments ouverts, par moments plus fermés. C'est selon leur état, selon les angoisses qui les assaillent. On est tous un peu comme ça. Hein. Il y a des jours où on a envie de parler, d'autres moins. Il s'agit au fond de sentir un peu ça, de ressentir, d'être un peu fin, un peu délicat, pour ne pas trop peser, pour ne pas... Un film comme ça suppose un peu de tact, au fond.
Il y a une scène qui revient régulièrement dans le film, c'est la scène de la caisse. Et on a une table avec des personnes, des accueillants, des accueillis, qui font les comptes de la caisse du bar. Pourquoi vous êtes insisté sur cette scène-là ?
Mais c'est important, le rôle des sous, l'argent... L'argent du bar, c'est ce qui va permettre de financer des sorties. Mais c'est des moments un peu ritualisés qui reviennent et c'est important de montrer aussi cette dimension rituelle.
C'est aussi une façon de les ancrer dans le réel et dans notre société, eux qui sont parfois un peu en décalage.
Oui, les comptes, mais aussi tenir le bar, mais aussi co-diriger la réunion du lundi matin qui s'appelle l'indispensable, mais aussi beaucoup de situations sur la Damande sont co-animées par les patients et les soignants. C'est un lieu où le quotidien est construit par les uns et les autres. C'est très important. Les comptes, c'est important. Tout ce qui se passe au quotidien, les micro-événements, il y a les sorties, les ateliers. Les ateliers sont à la fois des prétextes, parce que faire du dessin, ce n'est pas forcément une fin en soi. C'est surtout le prétexte à aider les personnes qui viennent là à renouer un lien avec les autres, avec le monde, avec la cité, avec la vie, au fond. Sortir de son isolement, sortir de sa solitude, sortir de sa bulle, retrouver du désir pour aller vers les autres, pour parler aux autres, pour ne pas rester seul. C'est tout ça, les ateliers. Prétexte à réinsuffler de la vie.
La Damande, c'est un beau lieu, un lieu où on se sent bien, mais c'est aussi un petit îlot dans une psychiatrie en France qui est plutôt dévastée. Quels sont les échos de la psychiatrie en France qui vous sont parvenus pendant tout ce travail ?
On entend beaucoup, on lit beaucoup de choses qui racontent à quel point les équipes qui travaillent dans la psychiatrie publique sont découragées. Beaucoup de gens finissent par déserter le métier d'infirmier en psychiatrie parce que quand on ne peut plus exercer dignement son travail, qu'on n'a plus le temps de s'occuper des patients, qu'on est accablé par la paperasse, les ordinateurs, les injonctions qui viennent d'en haut, les dictats qui viennent du management, les restrictions budgétaires, le retour à la contention, c'est-à-dire au fait d'attacher des patients sur leur lit pour les empêcher de bouger. Quand on en est là, les gens sont découragés à faire ce travail. Et puis, il y a une certaine culpabilité, de la honte à laisser les patients seuls, sans pouvoir être auprès d'eux. Donc, on entend beaucoup de choses comme ça. Mais... En même temps, il y a heureusement ici ou là des gens qui, contre vents et marées, essaient de se battre.
Votre film, c'est un plaidoyer, c'est un film engagé qui veut dire qu'on peut recréer des liens avec ces personnes et on a tout intérêt à le faire.
Oui, on peut voir le film comme ça. C'est un film qui vient effacer certains clichés qu'on peut avoir sur les patients qui ont des troubles psychiques, qui sont souvent montrés comme des gens qui font peur, possiblement dangereux. Donc le film n'est pas organisé comme un plaidoyer, ça, c'est plutôt le sous-texte au fond. C'est pas un film militant, c'est pas un film qui dénonce, c'est pas un film qui vient dire voilà tout ce qui va pas. C'est pas un film qui montre la déshérence qui frappe la psychiatrie aujourd'hui. C'est plutôt en effet un film qui montre une équipe au travail, une équipe qui essaye, c'est difficile, mais qui essaye d'accorder du temps aux patients, qui essaye de faire autant que possible un peu de sur-mesure, c'est-à-dire d'aider chacun à trouver les solutions, des solutions pour tenir dans la vie.
Sur notre radio RCF, on a une chronique qui s'appelle « Folie ordinaire » et qui s'intéresse à la santé mentale, pour dire qu'on est tous concernés, on peut tous avoir des difficultés avec notre santé mentale. Vous, quelle relation vous entretenez avec cette question de la santé mentale ?
Je me sens très attentif à ce qui se passe dans ce monde et je pense que si par deux fois j'ai eu envie de faire un film en psychiatrie, c'est que il y a là des choses qui me touchent très profondément, de façon intime, qui font écho à mon monde interne, sans doute aussi.
Dans votre regard, dans l'œil de votre caméra, toutes ces personnes apparaissent très attachantes. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris ? Qu'est-ce que ce travail auprès d'elles vous a appris ?
J'ai trop peu de recul pour savoir en quoi ça m'a changé. Ce que je peux dire, en tout cas pour l'instant, c'est que j'y ai fait des rencontres et de belles rencontres. Et c'est déjà beaucoup.
C'est à vous le matériel ?
Oui.
Vous avez une voiture pour travailler tout ça ?
C'est parce que je prends un traitement très fort que je ne désire pas, que je peux tenir un dialogue avec vous, Guillaume. Sinon, je me prends pour Jésus, moi.
Bah, c'est bloqué dans la tête, toujours les mêmes délires, les mêmes choses.
Personne n'est parfait. Personne n'est parfait.
Et bien voilà, c'est la fin de cette émission Effervescence. Merci à Laurent Grésheimer et Guillaume Goubert pour leur participation. Merci à Nicolas Philibert pour son accueil et Pierre Samanos pour la réalisation. Une citation pour la route, une citation signée Picasso bien sûr. Un tableau ne vit que par celui qui le regarde. Bon week-end à tous.